Mobiliser pour la mobilité,
ça tombe.
Un podcast de la Fédération nationale des professionnels de la relocation.
La cybersécurité, un défi majeur pour les professionnels de la mobilité, mais pas seulement. Alors comment s'en prémunir? Quelles sont les bonnes pratiques? Nos deux invités nous éclairent sur ces sujets. Ils sont experts pour AXA, Thierry Piton et Gérard Flacher.
Une longue histoire.
Bonjour Thierry, bonjour Gérard.
Bonjour.
Bonjour Sébastien.
Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation à ce podcast Mobilisé pour la mobilité, hein, qui est un podcast produit par la Fédération pour apprendre aussi de ses adhérents et puis des vastes sujets qui entoure la Fédération de la mobilité de la relocation, et puis un sujet qui j'en suis sûr va nous passionner parce qu'il nous concerne tous, c'est le sujet de la cybersécurité. Alors avant de rentrer dans ce vif du sujet, et puis j'ai plein de questions à vous poser sur ces sujets-là, avant de rentrer dans le vif du sujet, petite présentation de chacun, vos missions et vos tâches à tous les deux, pour qu'on remette un petit peu dans le contexte et puis qu'on apprenne aussi à vous connaître. Gérard.
Alors, bonjour, donc Gérard Flacher, je suis agent général AXA, donc j'interviens en tant que partenaire de la FNPR. Donc je propose tout ce qui est assurance habitation pour les impatriés, mais également dans le cadre de mes activités, j'assure les PME sur tous leurs risques, que ce soit leurs risques de responsabilité civile, professionnelle, mais également donc j'interviens sur des sujets comme la cybersécurité, puisque effectivement AXA est un acteur important sur le sujet. Voilà.
Thierry.
Et Thierry, donc moi je suis le référent national pour la souscription des risques cyber chez AXA. Donc AXA, on a un contrat cyber depuis une dizaine d'années maintenant. On a 5000 clients en France et on a une vingtaine de souscripteurs sur toute la France que j'accompagne. Et je participe aussi à l'évolution et l'élaboration de notre produit d'assurance cyber.
Alors, entrons dans le vif du sujet très rapidement sur la thématique qui nous intéresse sur cet épisode de podcast, qui est donc la cybersécurité. Alors, c'est un sujet divers et varié, je le disais tout à l'heure. Est-ce qu'on peut, allez, on va poser une question un peu de novice, de béotien. Est-ce qu'il y a une définition de la cybersécurité?
La cybersécurité. Alors la cybersécurité, ce sont les mesures de prévention et de résilience aussi, de protection et de résilience qui sont mises en place par les entreprises pour se protéger contre le risque cyber. Peut-être rappeler ce qu'est le risque cyber. Le risque cyber, c'est une atteinte aux données, c'est un risque immatériel et qui va porter atteinte à la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité des données. Et il a deux origines, ce risque. Une origine malveillante, donc la cybercriminalité, qui est dans l'immense majorité des cas, mais aussi ça peut être l'erreur humaine, ça peut être aussi un employé d'une entreprise qui va générer un risque cyber, mais qui est finalement une erreur. Il y a les deux faits générateurs.
On en parle depuis longtemps de cette thématique-là, de ces sujets-là, qui étaient, enfin vous m'arrêtez si je me trompe, mais qui étaient plutôt réservés à des grandes entreprises ou à des institutions à une époque, et qui maintenant touche véritablement, ou peut potentiellement toucher véritablement tout le monde, et même les indépendants et les TPE-PME.
Exactement, c'est l'évolution de ces dernières années, c'est-à-dire que les groupes cybercriminels, parce que c'est ça dont il s'agit, ont vraiment ciblé aujourd'hui les TPE-PME, c'est devenu leur cible prioritaire. Avant, ils attaquaient plutôt les grandes entreprises, parce qu'il y avait effectivement un maximum d'argent à se faire, parce que le but c'est ça. Mais celles-ci sont de plus en plus protégées, les attaques sont de plus en plus complexes, et donc ils ont décidé de descendre finalement quelque part et d'attaquer les TPE-PME en masse. Quelques chiffres pour le situer, hein. Aujourd'hui, en termes de fréquence, alors c'est des sondages, mais en fonction des sondages, on est entre 15 et 20% des TPE-PME touchés par une cyberattaque chaque année, ce qui est très important comme fréquence, et on est surtout sur une augmentation très forte, ça s'accélère en 2024, c'est plus 53% d'attaques qui touchent des TPE-PME. Donc ces attaques sont faites d'une manière automatisé, parce qu'on ne peut pas attaquer des milliers de PME sans de l'automatisation, mais aussi du ciblage, et je pense qu'on parlera après des modes opératoires, mais en tout cas, ces attaques sont faites aujourd'hui grâce à l'intelligence artificielle qui permet de toucher beaucoup d'entreprises et d'une manière ciblée, donc effectivement extrêmement efficace aujourd'hui.
Oui, c'était une des questions que j'allais vous poser évidemment, c'est avec maintenant l'arrivée hein, des intelligences artificielles, alors qui peut servir tout un chacun, oui, mais évidemment les pirates informatiques, les hackers, ont vite compris qu'ils pouvaient aussi tirer profit de ces technologies-là pour faire des attaques beaucoup plus ciblées, beaucoup plus efficaces et pertinentes.
Exactement, exactement. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est que pour eux, c'est d'exploiter des vulnérabilités dans les entreprises, dans les petites entreprises. Donc il y a deux types de vulnérabilités qui sont exploitées. Tout d'abord, c'est des vulnérabilités humaines, c'est-à-dire c'est l'employé de l'entreprise qui va cliquer sur l'email malveillant, c'est le principe du phishing, et l'intelligence artificielle va permettre de cibler parfaitement ces emails, c'est-à-dire les cibler à partir d'informations réunies dans d'anciennes fuites de données, sur les réseaux sociaux, c'est de se dire finalement, on va créer un email, un faux mail, mais qui va être parfaitement bien fait avec les bons logos, avec beaucoup de véracité et surtout ciblé sur la bonne personne de sorte à ce qu'elle s'attende à le recevoir. Donc typiquement, je vais envoyer une mise à jour d'un logiciel à une personne où on a détecté sur LinkedIn qu'il utilisait ce logiciel. Donc il va effectivement être amené à cliquer dessus. Donc le phishing est de plus en plus ciblé grâce à l'intelligence artificielle. Et l'autre type de vulnérabilité qui sont exploitées, c'est des vulnérabilités techniques. Et là, comment procèdent les attaquants? Ils ont des scans, ils scannent Internet, tout Internet, et ils relèvent des vulnérabilités techniques, c'est-à-dire un serveur, un accès à distance, par exemple, pour du télétravail, qui est mal configuré, un site Internet mal configuré, mal paramétré, un serveur ouvert sur Internet alors qu'il n'aurait pas dû, avec des vulnérabilités logicielles. Tout ça, c'est détecté, et après, ils procèdent aux attaques en fonction de ces vulnérabilités. Donc une petite entreprise qui a des vulnérabilités visibles et exposées sur Internet va devenir une cible parce qu'en fait elle va être attaquée à cause de ces vulnérabilités. Et donc tout ça c'est exploité en masse pour faire des intrusions dans le système d'information des entreprises, même les toutes petites.
C'est vrai que quand on pense à des institutions, je pense entre autres au gouvernement, des institutions d'État, etc., etc., on comprend, hein, le pour, enfin, on comprend, oui, on imagine en tout cas le pourquoi des attaques. C'est peut-être plus difficile à expliciter pour des TPE-PME. Qu'est-ce que les pirates peuvent récupérer en fait ou souhaitent récupérer dans ces attaques?
Alors, c'est comme je disais, c'est l'attaque par opportunisme. Dans l'immense majorité, c'est pas forcément des attaques ciblées. Donc, c'est-à-dire que la PME va se faire prendre dans une attaque de masse. Qu'est-ce qu'ils vont chercher? Ils vont d'abord chercher à exfiltrer les données. Et dans toute entreprise, de toute façon, il y a des données qui sont intéressantes. C'est des données du personnel, des données, des fichiers clients. Ça peut être effectivement des données, des brevets, des secrets de fabrication. Il y a des sociétés qui fabriquent aussi des produits. Donc, exfiltrer toutes les données. La donnée, elle a de la valeur. Et aujourd'hui, les groupes criminels font au moins, si ce n'est plus, d'argent en revendant la donnée qu'en demandant des rançons et en chiffrant les données. Donc, la donnée a beaucoup de valeur. Une fois qu'ils ont exfiltré la donnée, qu'est-ce qu'ils font? Ils chiffrent tout ce qu'ils peuvent comme données dans les systèmes d'information de l'entreprise et donc ils demandent une rançon parce que l'entreprise est bloquée. Donc c'est le double niveau d'extorsion qui permet au final de gagner de l'argent parce que leur objectif c'est ça, c'est de toute façon par la revente de données ou par des rançons obtenir de l'argent, c'est le but.
Alors quelles bonnes pratiques recommandez-vous pour limiter les risques? Alors après, avant même d'appeler une assurance, si on s'est fait attaquer, on y reviendra tout à l'heure, mais quelles sont les bonnes pratiques?
Alors, les bonnes pratiques à mettre en place, c'est de l'hygiène informatique, hein. c'est du bon sens, c'est de se dire il y a des règles minimum de base à mettre en place, soi-même ou à faire mettre en place par son prestataire informatique en s'assurant qu'il le fasse bien contractuellement, ça c'est important, mais c'est des mesures qui ne nécessitent pas d'investissements qui sont peu coûteuses et qui permettent quelque part d'évacuer la majorité des attaques opportunistes dont on parle. Une attaque ciblée, de toute façon, un attaquant va y arriver quoi qu'il arrive. À partir du moment où il a décidé d'attaquer une entreprise ciblée, il va y arriver. C'est une question de temps. Les attaques opportunistes, on peut éviter des attaques de base par des mesures simples. Les mesures simples, c'est quoi? C'est de l'hygiène, c'est de dire j'ai des mots de passe un minimum complexes. voilà, une certaine complexité, une certaine robustesse, parce qu'aujourd'hui on sait que les attaquants ont des outils pour faire tourner des mots de passe par, et donc hacker des mots de passe assez facilement. C'est d'avoir une certaine je dirais, une discipline dans la mise à jour de ces logiciels. Parce que quand effectivement un logiciel est mis à jour, c'est bien souvent pour corriger une faille de sécurité. Et on parlait tout à l'heure d'exposition de vulnérabilité, c'est ça. J'ai mon serveur qui est exposé sur Internet, je l'ai pas mis à jour, il y a une faille de sécurité. Ça fait, donc c'est simple, hein, il suffit de mettre à jour en fonction de la recommandation de l'éditeur. Il y a des failles qui sont très critiques, il faut mettre à jour rapidement. C'est de l'hygiène, c'est de la discipline. Avoir effectivement ce qui est très très important aussi, c'est de sensibiliser ses salariés, parce que comme on disait, c'est la première ligne de défense, donc c'est eux qui vont recevoir des emails de phishing, donc leur apprendre qu'est-ce que c'est qu'un mail de phishing, leur apprendre à reconnaître un mail de phishing, de pas cliquer sur n'importe quoi, de les former et les entraîner. Et c'est aussi fondamental, c'est d'avoir quelque part une sauvegarde, et c'est ça aussi qui va sauver l'entreprise quelque part. C'est si j'arrive à avoir une sauvegarde de mes données qui soit sanctuarisée, c'est-à-dire qui soit pas attaquable par l'attaquant quand il a fait son intrusion dans le système d'information. Qu'est-ce que ça veut dire une sauvegarde sanctuarisée? Ça veut dire déconnecter du réseau. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait ma sauvegarde des données, je déconnecte du réseau, comme ça elle ne peut pas être compromise par l'attaquant, parce qu'il n'y a pas accès par définition. Donc ça peut être un disque dur, mais en tout cas, une fois que la sauvegarde est faite, surtout le déconnecter du réseau. Ou alors, si j'ai une sauvegarde dans le cloud, si j'ai une sauvegarde effectivement en ligne quelque part, prendre une technologie, on appelle sauvegarde immuable, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas du tout être compromise, même si elle est en ligne. Donc déconnectée ou immuable, c'est des choses qui sont très très importantes, et c'est pas on est sur des mesures qui sont pas si compliquées que ça à mettre en place, qui sont très simples. Et puis bien sûr, avoir un antivirus et un pare-feu, enfin ça, même un particulier aujourd'hui évidemment a ça en place, donc c'est une évidence. Mais une fois qu'on a ça, la majorité des cyberattaques opportunistes quelque part, elle va être évacuée. La cyberattaque va arriver un jour ou l'autre, hein, on va pas se le cacher, mais ça va permettre quelque part de limiter cette fréquence, en tout cas qu'elle arrive le plus vite possible.
Ça veut dire qu'il n'y a pas, à l'heure actuelle, il n'y a pas une entreprise, une société qui ne peut pas être attaquée, en fait. Enfin, en tout cas.
Non. Toute entreprise est aujourd'hui soumise au risque cyber, quelle que soit son activité, elles sont toutes connectées à Internet aujourd'hui. Hein. Une entreprise qui n'est pas connectée à Internet, ça n'existe plus, quelque même dans les secteurs les plus traditionnels. Donc aujourd'hui, toute entreprise est soumise au risque cyber, et toute entreprise est ciblée, comme je disais, par des attaques automatisées, opportunistes. Et donc, la cyberattaque va arriver. L'objectif aujourd'hui, c'est de s'y préparer, c'est de se dire, je vais mettre en place des mesures pour retarder cette échéance quelque part, mais elle va arriver à coup sûr. Donc l'idée aussi, le deuxième effet, c'est de se dire je vais préparer cette attaque pour que le jour où elle va arriver, je sois prêt à y faire face. Parce qu'une cyberattaque, c'est des conséquences énormes pour une entreprise, quelle que soit sa taille.
Est-ce que les chefs d'entreprise, les dirigeants, les codir ont ce sujet-là en tête à l'heure actuelle, ou il y aura encore beaucoup d'acculturation à faire? Question à Thierry, ou peut-être question aussi à Gérard.
Moi, ma perception, c'est qu'effectivement, dans les petites structures, le chef d'entreprise en a conscience, mais pas forcément un informaticien de formation. Donc il va lui se dire j'ai une société qui traite ce sujet, j'ai un DSI, etc., mais il n'a pas l'assurance que ce qu'il a mis en place est suffisant. Voilà, c'est un problème aujourd'hui de compétences, et c'est pour ça qu'il faut s'appuyer à la fois sur des professionnels, mais surtout qu'il faut avoir effectivement une assurance derrière, quoi.
Oui, Thierry.
Et moi, je pense qu'il y a encore beaucoup, ça a progressé, hein, évidemment, mais il y a encore beaucoup d'acculturation à faire. Il y a encore des entreprises qui disent, mais finalement, moi, je suis trop petit, je vois pas pourquoi j'intéresserais des attaquants, parce que j'ai pas de données sensibles, je suis petit. Donc, c'est une méconnaissance des modes opératoires dont on vient de parler. Donc, ça sert aussi d'en parler, de se dire, les modes opératoires, c'est des attaques automatisées, elles vont arriver à coup sûr. Et c'est aussi ce que disait Gérard, c'est de dire, il y a un certain nombre de chez l'entreprise qui se disent, c'est un sujet technique, on parle d'informatique, c'est un sujet technique, donc je laisse ça à l'informaticien. C'est une erreur, c'est un sujet stratégique, c'est un risque stratégique. Les impacts d'une cyberattaque font que le dirigeant de l'entreprise se doit de traiter ce risque lui-même, c'est de dire, voilà, il y a un risque de dépôt de bilan, il y a un risque financier très élevé, il y a des risques réglementaires, juridiques, il y a des risques de réputation. C'est à mettre, quelle que soit la taille de l'entreprise, en haut de l'échelle des risques. Donc après, on va le voir, on l'a vu, on le traite d'une manière simple pour une TPE, mais surtout pas se dire je délègue entre guillemets la gestion de ce risque à un prestataire informatique, parce que non, c'est je le traite, ça veut dire les mesures d'hygiène dont on a parlé, je m'assure que mon prestataire informatique les met en place contractuellement. C'est ça, gérer le risque, en tout cas traiter le risque, et puis comme le disait Gérard, aussi s'assurer, parce que de toute façon un jour ou l'autre la cyberattaque va arriver et il faut s'y préparer, parce que c'est une crise très très importante pour quelle que soit l'entreprise. Donc c'est vraiment le dirigeant qui doit aujourd'hui prendre et traiter ce risque d'une manière très très sérieuse et efficace, parce que c'est en permanente augmentation et la survie de son entreprise est en jeu, très clairement.
Oui, on a vu quelques cas effectivement d'entreprises qui ont été hackées et piratées, et voilà, on a commencé à mettre les mesures en place une fois que l'attaque a été produite, évidemment, et avec beaucoup de regrets, évidemment. Par rapport au côté justement assurance, alors je me tourne peut-être plus vers Gérard. Qu'est-ce que l'assurance couvre en fait en cas de d'attaque?
Alors, je préfère que ça soit Thierry qui réponde, parce qu'il connaît le sujet. Moi, ce que je dirais sur la partie plus environnement, après je vais laisser Thierry sur la partie plus technique, mais sur la partie environnement, ce qui est intéressant, c'est que on fait pas que de l'assurance, on fait aussi de la prévention et du service. Voilà, donc c'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de prestataires qui nous accompagnent pour proposer une solution assez large et globale. Voilà, donc je te laisse Thierry développer ces items.
Mais complètement, et ça c'est un sujet qui est important, c'est que voilà, l'assurance cyber, c'est trois piliers fondamentaux et qui sont indissociables les uns des autres. De toute façon, le premier pilier, c'est la prévention, et donc l'assureur va aider l'entreprise à mettre en place son dispositif de prévention avec des solutions qui, pour certaines, en tout cas, sont incluses dans le contrat. Donc ça fait vraiment partie du contrat d'assurance. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui en inclusion dans le contrat? On a un scan des vulnérabilités externes. Je vous disais que c'était des vulnérabilités exposées par les attaquants, que l'entreprise prenne connaissance de ces vulnérabilités et puisse les corriger. Ça permet de réduire sa surface d'attaque et faire qu'elle passe sous les radars, qu'elle soit moins une cible exposée aux attaques, et ça c'est déjà très important. Le deuxième, c'est, je vous disais, c'est sensibiliser ses salariés. C'est-à-dire faire en sorte que ils aient des connaissances minimum pour reconnaître un mail de phishing, pour avoir des bonnes pratiques en termes de cybersécurité. Et là, pareil, inclus dans le contrat, une plateforme de sensibilisation et de test de phishing. Donc on est vraiment très en amont dans la prévention. On diffuse aussi des guides de bonnes pratiques, on diffuse des fiches d'expérience de retour de sinistre. On est vraiment très présent aux côtés des assurés avec un dispositif prévention, et ce dispositif évolue en fonction du temps, parce que la menace évolue, les modes opératoires évoluent, et donc c'est important aussi pour nos assurés de savoir qu'on les accompagne dans la durée sur ce risque-là. Après, comme je disais, de toute façon, la cyberattaque, elle va arriver avec certitude. La question c'est quand, mais elle va arriver. Donc là, c'est là où intervient l'assistance, c'est-à-dire que le client, il va avoir un numéro de téléphone, il va pouvoir appeler une ligne 24/24, 7 jours sur 7, pour avoir des experts qui vont l'accompagner dans tous les domaines, qui font suite à une cyberattaque. Le domaine technique, bien sûr, c'est les mesures d'urgence, la réponse à incident, la reconstruction du SI. Et donc là, c'est une couche d'expertise qui va intervenir avec le prestataire de l'entreprise. On ne va pas du tout la remplacer, mais au moins faire en sorte que cette partie technique soit parfaitement faite avec des experts, et surtout que l'entreprise puisse reprendre son activité le plus rapidement possible. C'est de l'assistance aussi en termes de juridique. Est-ce qu'il y a des données personnelles qui ont été volées? Est-ce qu'il faut une déclaration à la CNIL? Donc on a une aide à ce niveau-là. On a une aide aussi sur le plan de la communication, parce que c'est très important de communiquer à ses clients, son écosystème, qu'on a eu une cyberattaque et qu'on a mis des mesures en place. Donc ça veut dire aussi se faire accompagner, pas que l'entreprise ait une réputation qui soit entachée. Et puis Et même le côté, et ça c'est pas un gadget, c'est vraiment quelque chose qu'on a, c'est le côté support psychologique, parce qu'une cyberattaque, c'est une crise énorme dans une entreprise, quand il n'y a plus de données, quand il n'y a plus rien, quand on ne peut pas répondre à ses clients, il y a parfois besoin d'un support psychologique, que ce soit pour le dirigeant, pour le salarié qui aurait cliqué sur un email malveillant et qui aurait mis son entreprise dans ses difficultés, il y a un support. Donc c'est vraiment une aide à 360 degrés pour dire, le dirigeant d'une petite entreprise, il va avoir tous les experts à sa disposition pour passer cette crise dans tous les domaines et des expertises qu'il n'aurait pas, qu'il aurait du mal à trouver en tout cas, et puis avec des coûts très importants s'il n'était pas assuré.
Vous parliez de la partie communication. J'ai une question à ce sujet. Est-ce qu'on doit communiquer quand on se fait pirater? Est-ce que c'est pas contre-productif?
Non, là, c'est pas contre-productif du tout. Hein. Il y a les aujourd'hui dire ah bah tiens, on a une petite panne informatique, on est désolé, etc. Les gens sont pas dupes. On sait qu'aujourd'hui il y a quand même beaucoup de cyberattaques, que les attaquants eux-mêmes ont des communiquent sur les cibles qu'ils ont attaquées et communiquent entre eux et même publiquement sur le dark web, etc. Donc non, ce qu'il faut c'est être capable d'expliquer à ses clients, voilà, on a eu une cyberattaque, pour les protéger eux aussi, parce qu'effectivement eux-mêmes par rebond peuvent être touchés par cette cyberattaque. Donc c'est communiquer rapidement auprès de son écosystème, dire on a fait les choses correctement, on a bloqué les accès, on travaille avec des experts pour pouvoir repartir, et donc voilà, il n'y a pas de compte à avoir une cyberattaque, mais ce qu'il faut, c'est en tout cas, c'est être transparent avec son écosystème et surtout avoir les bons prestataires pour l'aider.
Et puis, il y a un autre sujet sur cet aspect, c'est effectivement le vol de données. À partir du moment où, effectivement, les données des clients sont dans la nature, il faut effectivement qu'ils soient informés que, il peut y avoir effectivement des protections ou des choses à faire sur le sujet, quoi.
Voilà, ça c'est même une obligation légale.
C'est une obligation, et quand on voit les grandes entreprises, la façon aujourd'hui de communiquer d'une entreprise à l'autre, elle est très différente, quoi.
Oui, parce que il y a eu le cas il n'y a pas très très longtemps, me semble-t-il.
C'est Free.
Free par exemple.
Free, voilà, exactement. Donc voilà, et ils ont toujours tendance un peu à minimiser le sujet, et une bonne communication, c'est de prévenir ses clients effectivement qu'il y a eu un vol de données, mais que les mesures ont été prises, quoi.
Et là, a priori, sur ce cas d'usage-là, si je me trompe pas, c'était pas Free, c'était un prestataire en fait de Free qui a été piraté, c'est ça?
Alors ça c'est un bon point, ça permet de souligner que effectivement une entreprise, même si elle a ses données qui sont hébergées chez un prestataire, etc., reste responsable de ces données. Et donc c'est à lui de communiquer au client, c'est à lui de faire la déclaration à la CNIL. On se repose pas sur un prestataire, en tout cas, et c'est à lui aussi quelque part de vérifier si son prestataire a un bon niveau de sécurité et de pas confier ses données sans vérification. Ça fait partie aussi des bonnes
pratiques. Ouais, cette partie-là, elle est importante aussi parce que, on le disait au début de nos échanges, dans les TPE, PME, voilà, les petites entreprises, les dirigeants n'ont pas les connaissances nécessaires, c'est pas leur compétence métier, la partie informatique. Pour beaucoup d'entreprises, il n'y a pas de DSI, il n'y a pas de service informatique, donc ils passent par un prestataire extérieur. Difficile de savoir si le prestataire extérieur avec lequel on collabore, avec lequel on travaille, est compétent en la matière.
Alors, il y a des labels aujourd'hui. Hein. Il y a cyberveillance.gouv qui a sorti un label cyberexpert qui permet effectivement de voir si son prestataire a le minimum de connaissances en cybersécurité. Ça fait partie en tout cas des choses fiables, et de voir est-ce que son hébergeur a un certain nombre de certifications. Il peut être ISO, il peut être Cetnum Cloud. Enfin, voilà. C'est important quand on confie ses données. C'est quand même la richesse de l'entreprise qu'on confie. C'est, voilà, voir est-ce qu'il y a des compétences, est-ce qu'il y a des labels, est-ce qu'il y a des certifications. C'est des choses qui sont assez simples à vérifier finalement.
Au niveau le législatif, est-ce que il est inscrit dans la loi que chaque entreprise doit avoir un process de protection par rapport aux cyberattaques?
Alors il y a plusieurs niveaux de loi. Hein. Si on parle des données personnelles, effectivement, il y a le RGPD qui impose un certain nombre de protection des données, d'avoir un DPO, d'avoir une déclaration à la CNIL en cas d'incident, etc. C'est vraiment sur les données personnelles. Si on élargit aux données de l'entreprise aujourd'hui, il y a une loi européenne qui va pas tarder à rentrer dans la loi française, c'est une question de semaines maintenant, qui s'appelle NIS 2, qui est une loi qui impose des mesures de cybersécurité à un certain nombre d'entreprises, finalement, de l'économie française, dans des secteurs d'activité qui ont été identifiés. On considère qu'il y a 10-15 000 entreprises qui vont devoir se conformer à ce référentiel. Là, on est vraiment sur des normes de cybersécurité. Et ce qui est intéressant, c'est que ces entreprises-là vont aussi tirer en termes de niveau de cybersécurité tout leur écosystème de sous-traitants. Parce qu'en fait, NIS 2 oblige ces donneurs d'ordre à vérifier que leurs sous-traitants ont des mesures de sécurité minimum, ce qui veut dire qu'une petite entreprise va pouvoir avoir des demandes de son grand client de dire « est-ce que vous respectez telle et telle mesure de sécurité ?» Pourquoi pas le mettre contractuellement? Et nous, ce qu'on voit de plus en plus, c'est en plus demander une garantie cyber à son sous-traitant pour effectivement s'assurer que la chaîne, la supply chain est sécurisée. Donc de plus en plus, ça va être le cas. Et donc on se dirige vers un écosystème de confiance où finalement les petits, on sait bien que c'est quelque part le maillon faible de la supply chain, vont devoir aussi monter en cybersécurité et en assurance et en résilience pour pouvoir continuer à faire du business avec les grandes entreprises. Donc ça, NIS 2 va aussi aider à développer tout ça.
Et enfin, une petite dernière question. Alors, on est sur une thématique qui évolue beaucoup, en fait, dans ces milieux-là aussi. Moi, je fais toujours un peu le parallèle. Je sais pas s'il est bon ou pas bon, mais en tout cas, c'est bien. Avec la partie sportive et le dopage en l'occurrence, où on fait des progrès pour détecter les produits illicites et derrière on en invente d'autres, etc., etc. Donc c'est une course infinie qui ne s'arrête jamais. Est-ce que c'est la même chose évidemment aussi sur la thématique de la cybersécurité? C'est que il y a des nouveaux modes opératoires, des nouvelles technologies. On en a un peu parlé tout à l'heure avec l'IA, mais des nouveaux modes opératoires, des nouvelles technologies qui arrivent, qui font que c'est de plus en plus puissant, de plus en plus pertinent. En face, on met quand même des process en place, mais c'est peut-être pas suffisant. Comment ça évolue tout ça en fait?
De toute façon, comme je le disais, rien ne sera jamais suffisant. De toute façon, si on se dit j'ai un très bon niveau de protection, je suis tranquille sur les cyberattaques, c'est pas possible. De toute façon, quel que soit, comme je vous disais, les mesures qu'on met en place vont faire qu'on va réduire quelque part la probabilité qu'elle arrive à court terme. Mais de toute façon, un attaquant qui veut rentrer dans le système d'information, quoi qu'il arrive, il va y arriver. C'est une question de temps et de moyens et d'opportunisme par rapport à un rapport entre le gain et quelque part le temps qu'il va y passer et ce qu'il va investir pour faire l'attaque. Donc après, comme vous dites, c'est des moyens qui se démultiplient au niveau des attaquants, parce qu'ils font beaucoup beaucoup d'argent et donc ils utilisent des technologies de plus en plus sophistiquées pour créer des nouveaux malwares avec l'intelligence artificielle et donc pour les diffuser. Et de l'autre côté, les défenses s'organisent aussi, parce qu'effectivement, les scans qu'on a aujourd'hui permettent aux petites entreprises de se protéger aussi. On a aujourd'hui des solutions qui commencent à se démocratiser, qu'on appelle des EDR, qui sont des outils qui détectent des cyberattaques et qui commencent à se démocratiser aux petites entreprises, aux PME. Ils sont très intéressants parce qu'en fait, contrairement à un antivirus qui, lui, va comparer un virus à une base de virus, l'EDR va faire un peu comme un détecteur de mouvement finalement dans une usine et va détecter qu'il y a un attaquant qui est en train effectivement de se latéraliser et donc de faire une cyberattaque. Donc, et on sait que plus on détecte tôt un attaquant dans un système d'information, plus on arrête une cyberattaque tôt et moins elle fait de dégâts. Donc ce type de solution de détection va se développer aussi auprès des petites entreprises. Donc c'est les deux évoluent, mais au final, ce qui est important, c'est que l'entreprise ait un niveau minimum par rapport à sa taille et un niveau d'investissement correct pour retarder la cyberattaque, mais de toute façon elle arrivera. Donc il faut aussi préparer l'attaque, préparer effectivement la résilience, avoir les prestataires, avoir un contrat d'assurance pour pouvoir faire en sorte que aussi on repart derrière.
Et on a bien compris effectivement que le pilier reste évidemment l'acculturation, la formation, la sensibilisation des collaborateurs.
Les salariés en continu, oui.
Et ça, c'est, ça aussi, c'est j'imagine aussi que ça doit être fait de mise à jour aussi de temps en temps, parce que ça évolue et que c'est pas parce qu'on a fait un temps de sensibilisation que maintenant, ça y est, on est apte à travailler dans l'entreprise. Donc,
Exactement. Et il faut former chaque année, former avec des e-learning qui évoluent en fonction de l'évolution de la menace, hein, c'est très important. Et puis tester, parce qu'effectivement, bah, les tests de phishing, c'est là aussi pour montrer est-ce que la formation a bien été intégrée ou pas. Et donc, ça fait partie de ce que peut suivre un dirigeant de petite entreprise, c'est de dire, voilà, j'ai quelques salariés, est-ce que un test de phishing, ils ont tous liké dessus, ou alors est-ce que effectivement ils commencent à apprendre. Mais ça, c'est de l'amélioration continue, finalement, en tout cas de mettre une culture, comme vous disiez, de la cybersécurité dans l'entreprise, pour que chaque salarié soit conscient des risques pour son entreprise et puisse que c'est une ligne de défense qui est très importante pour son employeur.
Après, c'est un peu de notre ADN aussi, nous, en tant qu'assureurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, quand je vois un chef d'entreprise et que je visite ses locaux, je vais vérifier que la protection incendie est bien présente, qu'il est aux normes au niveau électrique, que les protections contre le vol sont bien respectées. Donc aujourd'hui, on fait un certain nombre de démarches, justement, pour l'assurance des locaux. Et l'assurance cyber, on est un peu dans la même optique aussi, c'est-à-dire lui poser un certain nombre de questions et vérifier qu'il est bien en conformité pour effectivement se protéger contre les risques. Voilà.
Sujet passionnant, évidemment. On pourrait en discuter pendant longtemps, mais en tout cas, merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions sur ce sujet-là, en tout cas sur ces sujets-là qui, je le disais en début d'épisode, concernent évidemment tout le monde et pas que les métiers de la relocation et de la mobilité, évidemment. Merci Thierry, merci Gérard pour le...
Merci Sébastien.
Merci Sébastien.
Merci à nos deux experts, Thierry Piton et Gérard Flacher, pour ces éclairages essentiels sur la cybersécurité. Protégez-vous et à très bientôt sur Mobiliser pour la mobilité.
C'était Mobiliser pour la mobilité, un podcast de la Fédération nationale des professionnels de la relocation.
Une longue histoire.